Vous écoutez On lit pour vous.
Game Changer, version française, Québec, une suggestion de lecture de Benoît Mignot, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. Scott Hunter, capitaine de hockey adulé, voit son univers vaciller lorsqu'un simple smoothie préparé par le barista Kip Grady fait naître en lui un désir auquel il devient impossible de résister. Mais Scott est enfermé à triple tour dans le placard. Trouvera-t-il le courage d'en ouvrir la porte, au risque de tout perdre? À moins d'avoir vécu dans une grotte, le phénomène télévisuel « Heated Rivalry » n'a pu vous échapper. La première saison s'inspire directement de deux romans de la série de l'autrice néo-écossaise Rachel Reid, « Game Changer », qui donne également son nom à l'ensemble du cycle littéraire, et « Heated Rivalry ». Ce dernier sert de base et de titre à l'adaptation au petit écran. Or, hormis une ancienne traduction qui est passée relativement inaperçue, le public francophone n'avait jusqu'ici pas accès à cet univers. Une lacune désormais comblée grâce à la nouvelle édition proposée par les éditions Chatterley, dont le premier tome vient tout juste de paraître. Reste à savoir comment ce roman soutient la comparaison avec son adaptation télévisuelle. Bien qu'il soit toujours un peu vain de comparer un roman à son adaptation, l'exercice s'impose ici, tant cette dernière est présente à notre esprit. Force est de constater que les deux médiums s'en tirent avec les honneurs, chacun s'appuie sur des qualités distinctes mais complémentaires. Ainsi, le roman ne donne jamais l'impression de se limiter à une simple lecture du scénario de la série télévisée, tant il conserve une densité propre et déploie une progression narrative qui lui appartient. Game Changer met habilement en scène la tension entre deux facettes de l'identité de Scott Hunter, avec lesquelles il doit constamment jongler et qui sont en train de le briser, l'intime et la performance publique. La rencontre avec Kip, en apparence anodine, agit comme un véritable catalyseur. Elle le pousse graduellement à affronter ses peurs, qu'il s'agisse de la révélation de son orientation, du regard médiatique ou encore de celle, plus pernicieuse, de ne plus correspondre aux normes virilistes du milieu sportif. Bien évidemment, le roman renferme les éléments essentiels transposés à l'écran dans les épisodes 3 et 5 de la série, mais il les développe davantage, tout en présentant de nombreuses autres anecdotes, ce qui permet d'approfondir notre compréhension des personnages. À titre d'exemple, la scène du complet offert par Scott à Kip est présente, mais elle diffère de manière significative, notamment au regard du contexte, mais également parce que les deux hommes élaborent toute une série de stratagèmes afin de masquer l'implication de Scott. Ce détail, en apparence anodin, vient accentuer la panique sous-jacente qui accompagne la crainte de voir leur relation dévoilée. Kip n'est pas naïf. Il sait de quoi il s'agit. Hunter n'est pas sorti du placard et il doit être le plus discret possible pour avoir du sexe. Rien de sérieux, ni de long terme. Il a seulement besoin de jouir et Kip est ravi de l'aider. Le roman se distingue également par sa capacité à faire ressentir avec acuité la vulnérabilité de Kip, ses doutes, ses hésitations et son angoisse d'être contraint de retourner dans le placard. De même que ses fantasmes éveillés qu'il s'efforce sans cesse de contenir pour ne pas nourrir d'illusions le tout ponctué de touches d'humour. À l'instar de la série télévisée, le roman dépeint avec force détail la sexualité des deux hommes. Abondante, sans jamais lasser, cet appel des corps traduit au contraire la voracité, presque désespérée, qui les pousse à goûter à ce qui leur a longtemps manqué. Pour Scott, un fruit défendu trop longtemps inaccessible, pour Kip, la rencontre avec un homme qui le complète, enfin. Il y a un sentiment d'urgence dans ses yeux, mais lorsqu'il se penche vers lui, le baiser est lent et délibéré. Ce n'est pas une conversation, c'est Scott qui lui dit quelque chose d'important et qui s'assure que Kip l'écoute. Les amateurs se réjouiront par ailleurs de retrouver, dès ce premier tome, plusieurs personnages qui seront appelés à jouer un rôle déterminant dans les volumes suivants, ainsi que certains qui sont déjà bien présents à l'écran. C'est plus particulièrement le cas d'Ilya Rozanov, qui se montre baveux à souhait sur la patinoire, mais que l'on retrouve également dans une scène qui se déroule peu de temps après la sortie du placard explosif de Scott. Il laisse alors échapper une remarque qui, sur le coup, demeure énigmatique pour Scott, mais qui prend une signification toute particulière pour le téléspectateur averti. L'éléphant dans la pièce de ce projet de traduction demeurait les différences linguistiques, parfois difficiles à concilier, entre le Québec et la France, ce qui a conduit l'éditeur à faire le choix judicieux de proposer deux versions distinctes. Un véritable travail d'orfèvre s'est ainsi mis en place entre la traductrice française, Éléonore Kempler, et Pascal Rowe, traducteur breton établi au Québec depuis plus de 25 ans. Le roman rejoint ainsi un club très restreint, celui des œuvres pour lesquelles un même éditeur propose deux versions adaptées à leur lectorat respectif, la version québécoise arborant d'ailleurs une discrète fleur de lys à la quatrième de couverture. Les défis étaient loin d'être anecdotiques. On pense bien sûr à des termes comme « crosse » et « palais », parfaitement usuels en France, mais qui n'ont aucun écho au Québec. À l'inverse, leur équivalent québécois « bâton » et « rondelle » sont très associés au pénis et à l'anus dans l'Hexagone. À cela s'ajoute l'ensemble de la terminologie du hockey, francisée et normalisée depuis des décennies au Québec, alors qu'elle demeure souvent en anglais en France. Au-delà des questions liées à la terminologie du hockey, le travail d'adaptation s'est également étendu au vocabulaire et aux expressions du quotidien afin de respecter le contexte nord-américain. Bleuet plutôt que myrtille, être fine, lendemain de veille, avoir calé malade, etc. Ces ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils jouent un rôle crucial en préservant l'authenticité du cadre et en évitant au lecteur de décrocher du roman, notamment lors des scènes de vestiaire ou d'engueulade sur la glace, où des injures parisiennes auraient immédiatement détonné. On ne peut donc que saluer le soin presque chirurgical apporté à cette adaptation, soucieuse de respecter pleinement le public québécois. Petit détail amusant, la couverture de cette édition propose un point de vue en plongée sur Kip et Scott, le visage de ce dernier étant presque entièrement dissimulé sous son casque. Ce choix tranche nettement avec les couvertures anglophones, toutes antérieures à l'adaptation télévisuelle, qui présente la chevelure blonde du personnage de Scott bien en évidence. Le choix de l'illustrateur, Nicolas Caminade, semble donc délibéré puisque la tignasse brune de François Arnault est désormais intimement associée au personnage. Un premier roman qui offre une porte d'entrée convaincante et passionnante sur un univers riche où s'entrecroisent avec finesse romance, enjeux identitaires et sexualité, tout en permettant un approfondissement marqué des personnages qui plaira sans aucun doute aux amateurs de la série télévisée. Les éditions Chatterley ont acquis les 6 titres de la série, ainsi que le 7e en cours d'écriture, sans oublier 2 hors-série. On peut donc s'attendre à en voir paraître plusieurs au fil des mois et des années. La parution du second tome, Heated Rivalry, est d'ailleurs annoncée pour le 19 juin 2026. Les plateformes de vente en ligne s'adaptent au marché ciblé. Ainsi, Amazon.ca vend la version destinée au Canada et Amazon.fr celle pour la France. Afin d'éviter toute confusion, la mention « version Canada » ou « version France » est généralement indiquée à la suite du titre. Info « Game Changer » version française Québec par Rachel Reed, édition Chatterley, 2026, 480 pages. C'était « Game Changer » version française Québec, une suggestion de lecture de Benoît Mignot, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue.
L'heure de la réconciliation en forêt a sonné. Un texte collectif de Francis Véraud-Paul, Alice-Anne Simard et autres signataires paru le 29 juin 2026 dans la presse. Le secteur forestier québécois traverse une grave crise qui force à repenser à la fois les modèles d'affaires industriels et le régime forestier qui les encadre. Pour réussir, cette démarche doit toutefois mettre de l'avant des solutions qui seront à la fois durables et équitables. L'échec cuisant du gouvernement à réformer le régime forestier en 2025, projet de loi 97, nous enseigne que sans véritable concertation, il est impossible de changer la façon dont le territoire public est utilisé. Nous représentons un regroupement inédit de Premières Nations et d'organisations aux intérêts variés qui tentent de définir les bases d'un projet rassembleur. Trouver réponse à la crise industrielle. Il faut dès maintenant mettre en œuvre un processus inclusif d'élaboration d'une stratégie industrielle qui jettera les bases du développement du secteur forestier pour les prochaines décennies. Le contexte actuel nous force à revoir nos façons de faire en créant plus de valeur à partir de l'offre de bois disponible. La voix des travailleuses et travailleurs devra être au cœur de cette démarche. La crise cause des turbulences économiques majeures qui les heurtent de plein fouet. Par exemple, les petits entrepreneurs forestiers indépendants quittent la profession en grand nombre. Sans eux, il n'y a pas d'avenir pour le secteur. Le virage industriel en cours a un coût humain pour l'ensemble de la main-d'œuvre, ce qui impose qu'un plan de transition juste soit élaboré. Opérer un virage industriel d'envergure commande un environnement d'affaires sain et une prévisibilité pour attirer des investisseurs sérieux. Or, comment faire dans un climat social tendu? Le succès d'une stratégie industrielle ira de pair avec la réalisation d'avancées significatives dans la résolution de grandes controverses qui traînent depuis trop longtemps. Elles ont été pelletées vers l'avant dans l'espoir vain qu'elles s'estompent d'elles-mêmes. Des gestes forts doivent être posés. Amorcer une véritable réconciliation avec les Premières Nations. Une des leçons qui doivent être apprises de l'échec du projet de loi 97 est que la foresterie ne peut pas se pratiquer sans respecter les droits des Premières Nations. Cela passe inévitablement par le maintien de la qualité de leurs territoires ancestraux et une co-construction du prochain régime forestier. L'heure de la réconciliation en forêt a sonné. Favoriser une cohabitation harmonieuse. Le régime forestier de 2010 promettait une meilleure place aux autres acteurs du milieu forestier, notamment ceux offrant des activités fauniques, touristiques et de plein air. Ces promesses ont été brisées. En plus de répondre aux attentes des Québécoises et des Québécois, la diversité des activités en forêt contribue à renforcer le tissu économique régional. Des actions concrètes s'imposent pour établir une meilleure cohabitation. Mieux protéger les écosystèmes pour conserver des bienfaits durables. De grandes controverses environnementales perdurent depuis trop longtemps. Malgré des engagements gouvernementaux très clairs, le caribou est en constant déclin alors que le plan de protection de l'espèce est attendu depuis plus de 10 ans. Pour les aires protégées, l'atteinte de la cible de 30 % fait face à de nombreux obstacles. La protection des écosystèmes n'est aucunement en contradiction avec l'économie. Elle en constitue la condition de durabilité. Particulièrement en période de changement climatique, sans forêt résiliente, il ne peut y avoir ni industrie forestière viable, ni vitalité régionale à long terme. Il est temps de cesser les tergiversations. Revoir la gouvernance. Entre le contrôle total à l'industrie ou au gouvernement, il faut repenser de manière créative la gestion forestière pour un déploiement plus efficace, intégré et régionalisé de la foresterie. Il est temps d'entreprendre un chantier de réflexion structuré qui cherchera à corriger les problèmes actuels à l'intérieur d'un cadre convenu avec les Premières Nations. Ce chantier ne peut être improvisé. Ne ratons pas l'occasion de trouver des solutions durables et équitables. Une stratégie industrielle qui ne prendrait pas en compte les enjeux écologiques et sociaux encore en suspens équivaudrait à un billet assuré vers des conflits perpétuels et une imprévisibilité encore plus grande. La reconfiguration du secteur de la forêt offre une occasion historique de favoriser des modèles d'affaires qui intègrent a priori les grands enjeux d'aménagement durable, tout en soutenant une activité industrielle résiliente qui favorise de bons emplois. Nous sommes en droit d'attendre que le prochain gouvernement joue son rôle et mette en œuvre des solutions durables et équitables. Nous invitons donc tous les partis politiques à prendre acte de nos propositions, à s'engager, à entreprendre une véritable concertation avec les Premières Nations, dont la participation est indispensable à la réussite de cette démarche, et à mettre en place un comité permanent regroupant tous les partenaires du milieu forestier. C'était « L'heure de la réconciliation en forêt a sonné », un texte de Francis Véraud-Paul, Alice Anne Simard et autres signataires, paru le 29 juin 2026 dans la presse.
Au rayon de la culture québécoise. Un éditorial de Jean-Benoît Dumay, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Les temps sont durs pour la culture, à travers les compressions, les modèles d'affaires brisés et le financement qui rétrécit, on cherche parfois des traits de lumière. Un de ces rayons éblouissants de notre culture nous vient de la musique. Lancée en février 2025, la plateforme musique.ca, musicq.ca, connaît un succès qui a surpris même ses créateurs. Près de 225 000 utilisateurs en un an, dont 65 % de visiteurs récurrents. L'initiative de la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec, et des artistes entrepreneurs, SPACQ-AE, ne cherche pas à concurrencer Spotify, Apple Music ou Deezer, mais à les utiliser autrement. Pour contrebalancer le fait que sur ces géants du streaming, la musique francophone québécoise représente à peine 5 % des écoutes au Québec, musique.ca propose des listes d'écoutes conçues non par des algorithmes, mais par des humains, programmateurs experts, journalistes, artistes, qui connaissent et défendent ce répertoire. La technologie de musique.ca est d'une convivialité exemplaire et se dépose par magie sur votre application d'écoute musicale préférée. C'est, comme l'a formulé la directrice générale de la SPACQ-AE, Ariane Charbonneau, une vitrine qui met en lumière ce qui, autrement, se retrouverait à l'arrière-boutique, à côté des toilettes. La recommandation humaine comme antidote à l'invisibilité numérique. C'est cette même philosophie de curation humaine pour favoriser une meilleure découvrabilité qui anime notre projet quialu.ca quialu.ca où la communauté de lecteurs et de lectrices peut désormais créer des étiquettes de découverte afin de mieux transmettre le goût de lire un livre. Vous pouvez filtrer le catalogue afin de découvrir un livre décoiffant, épicé ou haletant, avec des personnages charismatiques, résilients ou moralement ambigus, qui traitent de deuil, d'inégalité sociale, d'enjeux LGBTQ+. Ce projet, réalisé dans le cadre de notre collaboration avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, avec qui nous avons lancé biblio.quialu.ca, mise sur l'expertise humaine pour guider les lecteurs dans l'océan du numérique. Lorsqu'elles sont créées par les libraires ou le personnel des bibliothèques, les étiquettes disponibles sur quialu.ca/explorer témoignent de cette intelligence collective, où chaque recommandation porte la signature d'un passeur qui connaît son métier. Tout comme le partenariat avec les diffuseurs de Rideau, cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications par l'intermédiaire de son programme Rayonnement de la culture québécoise. La collaboration entre secteurs culturels a aussi été au cœur d'un autre de nos projets qui s'est appuyé sur la participation généreuse des salles de spectacle membres de l'association Rideau, permettant d'augmenter substantiellement le tirage papier et la distribution de notre revue « Les libraires » afin de rejoindre ainsi des publics qui n'auraient peut-être pas croisé notre chemin autrement. Des diffuseurs de Matagami et Lebel sur Quevillon, dans le nord du Québec, jusqu'au théâtre Le Patriote, Sainte-Agathe-des-Monts, et le théâtre du Marais, Valmorin, dans les Laurentides, en passant par le théâtre Desjardins, à La Salle, le domaine Forget, à Charlevoix, et le Diamant, à Québec. On a senti, au cours de la dernière année, un appui solidaire à notre milieu littéraire. Le partenariat a pris racine et se poursuit en certains endroits au-delà de la durée de cette initiative spéciale. Notre expansion canadienne avec booksellers.ca, l'extension anglophone de leslibraires.ca, lancée en février dernier, s'inscrit elle aussi dans cette logique de collaboration afin d'offrir une solution de rechange aux plateformes étrangères. Avec l'objectif d'améliorer la disponibilité pan-canadienne des livres dans les deux langues officielles, en réunissant les librairies et les éditeurs indépendants du pays sur une même grande plateforme nationale, dans le contexte du manque de librairies francophones hors Québec, notre projet représente une opportunité pour les éditeurs québécois d'exporter leurs titres dans le reste du Canada en ligne ou dans les librairies anglophones indépendantes qui souhaitent combler ce manque. Ce n'est pas sans défi, mais c'est un rayon de plus. Et, alors qu'on ne les attendait pas, entre la plateformisation de la culture et la montée de l'intelligence artificielle générative, surgissent les promoteurs culturels Alexandre Leclerc et Maxime Leflaguet, qui puisent très loin dans nos racines et dans l'infinie proximité humaine. La réouverture de Chez Bozo, la légendaire boîte à chansons de la rue Crescent, fondée en 1959, 67 ans jour pour jour après son inauguration, n'est pas un anachronisme. Cette salle intimiste de 60 places et son mur couvert d'empreintes de mains colorées de nos légendes de la chanson ont été sauvés du pic. Chez Bozo avait été créé, à l'époque, pour pallier l'absence de lieu pour la chanson québécoise, une réaction directe à l'hégémonie culturelle française sur les scènes montréalaises. Ce n'est pas d'hier qu'on résiste. Seule survivante du groupe qu'elle avait formé avec Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé, Raymond Lévesque et Hervé Brousseau, Clémence Desrochers a confié à Alexandre Vigneault de La Presse en entrevue: on se donnait de la force en se réunissant. C'est également sous la plume de ce dernier que nous avons pu vivre la magie de cette soirée de réouverture, jaloux du public à qui Évelyne Brochu, au milieu de son tour de chant, a déclaré avec justesse: j'ai l'impression que là d'où on vient, tend la main à là où on va. C'était Au rayon de la culture québécoise, un éditorial de Jean-Benoît Dumais, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.